temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Le monde des communications vit de grands bouleversements depuis quelques années avec ce qu'on appelle communément le virage numérique. Les médias traditionnels, journaux, radios, télévisions ont dû s'adapter à la transformation provoquée par les nouvelles technologies. Notre invité, qui au gré du temps a occupé des fonctions importantes dans les médias, particulièrement en information, a sûrement eu l'occasion de réfléchir à toute cette mutation de notre environnement médiatique. Avec nous, Philippe Lapointe. Ben oui, j'imagine que c'est une mouvance qui vous préoccupe aussi.
Ben, moi, je pense que ça ouvre un monde d'opportunités, mais c'est sûr que c'est un gros défi. Le premier défi, je pense, le plus clair pour moi, c'est évidemment c'est formidable de s'ouvrir sur le monde, la mondialisation et tout, mais c'est sûr quand on regarde les revenus publicitaires qui vont sur Facebook et puis les revenus publicitaires les revenus qui s'en vont chez Netflix, je pense que c'est deux, pas au hasard parce que c'est deux monstres. Évidemment, c'est de l'argent qui sort du Québec puis les gens qui sont si on est un peu préoccupés comme moi.
Donc,
je
suis. Donc, il faut prendre le train.
Ben, oui, il faut prendre le train, mais il faut aussi poser des gestes pour protéger puis avantager puis donner des outils culturels aux Québécois puis aux Canadiens, parce que on y arrivera pas. C'est petit, le Québec. Il faut savoir ça. Là. Quand on regarde les autres pays, c'est vraiment petit. Alors, il faut vraiment trouver des outils pour se protéger. Le Québec a posé des bons gestes dans ce sens-là au fil des années. Puis, tu sais, le Fonds des médias du Canada, puis là, je mélange tout, mais Radio-Canada, la loi 101, le Fonds des médias du Canada, puis c'est tous des gestes publics qui ont été posés qui font en sorte qu'on définit puis on protège notre environnement culturel.
La Disque disait récemment que face à cette avalanche de téléchargements maintenant au plan de la musique, il n'y a pas beaucoup de musique québécoise sur les grands sites internationaux et que les artistes québécois sont pénalisés de la sorte. Et le discours est un peu à contrario de ce qu'avait dit Diane Tell aussi, presque au même moment, en disant « Arrêtez de produire des CD, l'avenir est au téléchargement ». Mais face à tout cela, face à cette invasion technologique du téléchargement, où l'artiste québécois trouve-t-il sa place et comment doit-il la trouver pour pouvoir en vivre aussi? Parce que ces gens-là vivent de leur talent et c'est pas toujours facile de pouvoir trouver une place dans cet espace médiatique.
C'est tout un défi. Hein. Il n'y a pas une seule solution magique, là, un problème qui est très complexe partout dans le monde. Mais les petites sociétés doivent trouver des façons de protéger et de permettre à la culture francophone ici de s'épanouir. J'aimerais ça vous dire, voici la recette, là. Mais c'est sûr que ça passe par une concertation du milieu, mais ça passe aussi d'abord par un produit qui est pertinent. Et il y a actuellement en production, en télévision, en cinéma, il y a une vitalité qui est remarquable.
On pense à Xavier Dolan, par exemple.
C'est exceptionnel. Moi, je suis optimiste par rapport à ça.
On pourrait parler de votre fils aussi.
On va écouter une chanson là, de lui là, qui s'appelle Parasitaire, mais il fait des très belles chansons. Donc, il y a du talent. Il y a du talent au Québec, beaucoup. Et puis, moi, c'est ça qui me rend optimiste. Alors, le talent, l'émergence du talent, puis le talent, il se présente de toutes sortes de façons. Ce qui est extraordinaire quand on est d'une génération, parce que moi, forcément, j'ai l'âge que j'ai, là, j'ai un peu plus d'expérience que d'autres, mais quand je vois des Xavier Dolan, ben moi, je trouve ça formidable, puis ce qu'il fait, puis ce que je trouve encore plus formidable, parce que je vois des gens qui ont 20 ans, ou qui ont 18 ans, ou qui ont 25 ans, puis qui, ou 30 ans, puis qui font des œuvres auxquelles pour me confronter, ça me choque, ces œuvres-là. Ça me confronte à quelque chose que je connais pas, mais j'adore ça. Il faut s'ouvrir à ça. Et je trouve ça formidable.
Et quand vous voyez votre fils écrire un texte interprété par Chloé Sainte-Marie, ça doit aussi vous réjouir beaucoup.
Ah ben oui, ça fait plaisir, c'est sûr.
Alors parlez-moi juste un peu pour présenter la pièce.
C'est une très belle chanson. Moi, je suis un fan de Chloé Sainte-Marie. Chloé qui était la conjointe de Gilles Carle, comme vous savez. Et évidemment, Gilles était un être exceptionnel. Mais Chloé aussi. Et puis Alexis aussi, alors qui est mon fils. Et puis donc c'est vraiment des très belles musiques, très belles paroles. Et puis c'est l'inutile essentiel, hein, parce que c'est l'anti-productivité par excellence. Et pourtant il n'y a rien de plus important. C'est ça qui me fascine. C'est comme la philosophie, si on veut, ou c'est comme la pensée. On est dans un monde qui favorise beaucoup l'utilitaire. Et les gens vont étudier à l'école pour apprendre des métiers. Mais à quelque part, si on réfléchit un peu, on est dans une radio plus sur la spiritualité un peu, on réfléchit un peu au sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pas seulement de travailler puis de faire fonctionner l'économie. Hein? C'est là que la poésie nous rejoint, puis moi, je suis pas croyant, mais que la prière peut nous rejoindre, puis que toutes les communions spirituelles peuvent nous rejoindre. Puis la poésie, c'est une façon de rejoindre l'absolu puis l'essentiel. Non.
Interprété par Chloé Sainte-Marie et dont le texte a été écrit par
Alexis Lapointe.
Alexis Lapointe, qui est le fils de notre invité, Philippe Lapointe, qui a occupé des fonctions en programmation aussi, parce que vous avez été vice-président de la programmation au Réseau TVA.
Oui, tu as fait ça pendant plusieurs années.
Ça a été quoi le plus beau défi à cet égard-là? Parce que vous étiez issu de l'information.
Moi, j'étais là quand j'ai d'abord travaillé pour l'équipe de Vidéotron dirigée par André Chagnon. J'étais là au moment de la transaction quand Québecor a acheté. Alors, le grand défi, je dirais, c'est le changement culturel, le passage d'une entreprise québécoise à une autre entreprise québécoise qui avait un style différent. Alors, on va dire ça comme ça. Le style de Pierre-Carles Péladeau et le style d'André Chagnon, c'est des styles radicalement différents. Et puis, j'ai travaillé plusieurs années dans l'environnement de Québecor. Mais moi, j'ai adoré cette expérience-là. J'ai trouvé ça difficile parce que c'est très intense. C'est une entreprise qui est axée sur le développement. Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on a eu des émissions extraordinaires. Je suis fier de l'information qu'on a faite à ce moment-là, des bulletins de nouvelles qu'on a faites du 17h, comme on a découvert le 11 septembre, de toutes les grandes émissions qu'on a faites.
Vous aviez déplacé l'émission Trafic qui devait commencer avec André Robitaille.
Pas André Robitaille, mais quand pauvre André, il n'a pas été chanceux parce que l'émission commence, puis cinq jours après, bang, le 11 septembre. Alors là, il fallait faire quelque chose.
Et vous avez saisi l'opportunité.
On a saisi l'opportunité, puis. Mais André s'est repris, il fait une émission du même genre actuellement à Radio-Canada, puis c'est une très bonne émission. Content pour lui, mais je suis content pour les téléspectateurs de le voir aussi.
Oui.
On a fait Star Academy, puis une des choses que Pierre Carl avait fait avec Star Academy et Julie à l'époque et l'équipe de tout le monde, c'est que c'était le choix, c'était la seule émission de Star Academy probablement dans le monde où toutes les chansons étaient en français à peu près. Donc c'est vraiment un choix éditorial de dire, mais nous, ça va, on va favoriser la chanson francophone.
Ce qui malheureusement n'est plus le cas avec une émission comme La Voix, où il y a beaucoup de chansons anglophones, hélas.
Je sais pas. Mais je sais qu'à l'époque, par exemple, Star Academy en France, c'était des chansons en anglais surtout. Et puis,
oui, et en France, le titre de l'émission, c'est The Voice. Assez curieusement. Mais c'est, ça, ce sont les Français.
C'est la France. Alors, on va laisser les Français gérer leurs propres enjeux.
On va enchaîner avec Georges Brassens. Les copains d'abord, parce que je pense que l'amitié dans votre vie, c'est quelque chose de très important.
Ah ben c'est fondamental. Des amis, on a beaucoup de. Moi, je connais beaucoup de gens parce que j'ai fréquenté beaucoup de gens pour des raisons professionnelles surtout et évidemment personnelles. Mais des vrais amis, on en a peu. Puis moi, j'en ai quelques-uns, puis je suis très content de les avoir. Puis j'essaie de m'en occuper, puis de les entretenir, puis de maintenir ces liens-là. J'ai des amis qui sont mon ami Jean-François, mon ami Pierre, qui sont des amis depuis qu'on est au collège à l'âge de 12 ans. On est restés très proches à travers les aléas de la vie. Et puis c'est très, 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 très précieux, les amis.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Je vais revenir, Philippe, sur ce que vous avez dit tantôt qui m'apparaît très important. Vous avez dit qu'on vivait dans un monde utilitaire. On fait des études qui doivent être utiles. On constate, malheureusement, puis vous avez fait vos études en philosophie, que la philosophie n'est pas tellement considérée, même au niveau collégial. Une des matières qu'on essaie souvent d'enlever dans le curriculum des élèves, c'est la philosophie. Et Dieu sait que dans un monde qui est en mouvance, où on a besoin de réfléchir davantage sur les enjeux qui nous préoccupent, on a besoin d'avoir un cadre de réflexion auquel peut nous préparer justement la philosophie ou des matières qui sont portées davantage vers une certaine forme d'humanisme, comme le faisaient par exemple autrefois les collèges classiques. On a perdu ça beaucoup.
Je ne sais pas si on l'a perdu beaucoup. J'ai honnêtement peu de recul par rapport à ça. Moi, je suis un partisan de la culture. Alors, je pense que plus on comprend la culture, et la culture, ça comprend l'histoire, ça comprend, c'est pas seulement d'écouter de la musique, la culture, puis de lire des livres. Oui, mais je pense qu'il faut lire des livres. Et puis, que ce soit des livres sous tablette ou des livres sous papier, mais il faut lire. Il faut lire, puis il faut essayer de comprendre le monde. Les enjeux sociaux, on parlait de l'autre émission, on parlait la semaine passée de l'enjeu identitaire, mais souvent, c'est une question d'incompréhension du monde. Moi, je ne veux pas être avoir l'air plus savant que les autres. Pas du tout. Mais en quelque part, il faut aussi essayer de comprendre que les autres existent en tant qu'eux-mêmes. Tu sais, c'est très difficile à comprendre, mais quand on fait de la philo pendant plusieurs années, puis quand on étudie l'histoire, on se rend compte qu'il y a des civilisations qui ont existé en dehors de nous. C'est le nombrilisme du monde occidental est spectaculairement phénoménal. Je veux dire, comment la caricature de ça, c'est les républicains américains, Michelle Bachmann, qui était candidate à la présidence républicaine de la dernière élection, là, à l'investiture, qui disait que la Bible avait été écrite en anglais. Bon, tu sais, les gens, quelqu'un dit quelque chose comme ça, tu baisses les bras, tu dis que non, ça part d'où, là, comment je fais pour démonter ça? C'est tellement grossier, c'est tellement idiot, en fait, c'est une idiotie fondamentale. Alors, tu sais, le rapport à l'immigration, le rapport à l'autre, alors, l'ouverture sur le monde passe par une forme de culture. La philosophie, mais c'est sûr que ça ouvre sur le monde, forcément. Tu sais, la compréhension de d'où vient la cité grecque, puis même de comprendre que les Chinois, ils ont inventé une coupe d'affaires avant nous, là. Puis c'est peut-être un grand peuple, le peuple chinois.
Fin d'après-midi. Cela sent l'automne. Cela sent les années. École secondaire, cela sent mes amis en France, cela me laisse lire, cela, le nouvel ops de mes aînés. Cela de la glace brisée, cela de l'eau trouble, de la lueur qui me scinde, rouge de honte, cela, chaque jour. Le mépris, tu restes la crainte de disparaître. Les collines, le regard, les raffineries, les squatteurs. Qui me parle d'abîme, d'église incendiée, de bourrasque passée dans la cour, puis d'autres choses comme des infrarouges. Cela, cela. De la beauté, furtivement appelée un soir par prestidigitation, venue puis disparue, et puis retrouvée le lendemain.
Pacotille par amour des archanges, Chloé Sainte-Marie, texte écrit par le fils de notre invité, Philippe Lapointe.
Alexis, bah, c'est une autre très belle chanson.
Excellent.
Un autre magnifique texte.
Et dans le fond, je reprends juste le premier terme, pacotille. Il n'y a pas de pacotille dans ce que l'on raconte. Quand on nous manque un cadre de référence pour réfléchir sur des situations qui sont parfois troublante. Ça m'amène à vous parler, puis vous le savez, c'est un enjeu qui m'a beaucoup animé pendant plusieurs années, tout l'aspect de la convergence des médias, où on sait quel est le pouvoir d'influence du média par le titre. Des fois, on ne lit que le titre, mais le titre peut avoir une influence sur la façon de penser. On constate que de plus en plus de chroniqueurs, par exemple, on s'attarde moins aux aspects factuels. On essaie d'inculquer soit au lecteur ou à l'auditeur une façon de voir les choses. Il y a des chroniqueurs partout. Est-ce que c'est vraiment la voie? Peut-être qu'au plan du média, ça peut être rentable parce que ça va chercher soit de la cote d'écoute ou du lectorat, mais au plan de l'apprentissage du monde dans lequel on vit et la manière de s'y ancrer, c'est peut-être pas gagnant.
Plus de chroniques, ben, des fois, il y a un recul des faits. Là. Des fois, c'est un peu l'impression qu'on a. Je pense que le numérique, là, le c'est une opportunité parce que maintenant, on n'a pas de raison, on n'a pas d'excuse. On peut tout trouver sur Internet, puis l'information est là à portée d'un clic ou à portée d'une commande vocale. Même maintenant, tu sais, c'est vraiment facile maintenant d'avoir l'information. Il faut faire un petit effort de rien du tout. Maintenant, il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de chroniques. Est-ce que c'est vraiment différent de ce que c'était avant? Peut-être. Moi, personnellement, ça m'agace un peu parce qu'évidemment, je suis très impressionné. Je vois des chroniqueurs qui écrivent tous les jours sur une multitude de sujets plus complexes les uns que les autres, puis ils ont des solutions, ils ont une opinion sur tout. Moi, ça m'impressionne beaucoup parce que personnellement, ça me prend du temps avant de me forger une opinion sur un sujet auquel je connais rien. Alors,
on dit souvent que tout le monde a une opinion, mais personne n'a d'idée.
c'est amusant. C'est peut-être plus difficile d'avoir des idées et d'avoir des plans, mais... Oui, il y a beaucoup d'opinions, c'est vrai, peut-être trop, mais bon, en même temps, on peut tout trouver. Il faut travailler un peu pour chercher l'information, mais il y a moyen.
Alors, allons se réfugier sous le pont Mirabeau où coule de la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards, longs de silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.